Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Les yeux ont des oreilles pour ce 47e épisode. En plus de nos habitués que sont Nathanaël, en prémaster de lettres modernes, Maya, en prémaster d'études théâtrales, Emma, moi-même en L3 de lettres modernes, et Lydia, étudiante britannique en prémaster de lettres modernes, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous pour la première fois Lucas, en L3 de physique. Nous vous proposons chaque semaine une traversée de textes mis en voix et de créations sonores autour de grandes thématiques que vous pourrez découvrir sur le site de Transistor.
Après un épisode 46 assez différent, puisqu'il était consacré à la lecture d'une seule nouvelle, nous reprenons notre tissage d'écho entre textes là où nous l'avions laissé. Car aujourd'hui, les yeux ont des oreilles, sont en guerre, ou plutôt parlent de la guerre. L'émission s'ouvrira sur la voix de Lydia, qui interprète pour nous The Bed, poème de Simon Armitage, lu à l'occasion du 11 novembre 2020 pour rendre un hommage aux soldats morts sur tous les fronts et de tout temps. Puis vous pourrez prêter l'oreille à la lecture de Maya d'une partie de T'aimer ou ne pas t'aimer, poème tiré du recueil de l'écrivain palestinien Mahmoud Darwish et publié en 1988. Nous retrouverons ensuite la voix de Lydia avec Menschliches Elende, un sonnet baroque d'Andreas Gryphius évoquant la guerre de 30 ans et daté de 1637. Notre tour du monde et des âges portera alors vos yeux jusqu'à la Grande Guerre, d'abord avec un extrait d'Orage d'acier, écrit par Ernst Jünger en 1920, et lu par Nathanaël, moi-même, ensuite avec un passage du Voyage au bout de la nuit que Céline publia en 1932, et que Lucas met en voix aujourd'hui. Enfin, Emma vous proposera de plonger dans l'Allemagne du STO, le service du travail obligatoire instauré pendant la Deuxième Guerre mondiale, auprès de Kavana avec trois passages d'Eruskov, roman autobiographique paru en 1979. Nous vous souhaitons une belle écoute et vous laissons tout à vos yeux et surtout vos oreilles.
The bed. Sharp winds scissor and scythe those planes. And because you are broken and sleeping rough in a dirt grave, we exchange the crude wooden cross for the hilt and blade of a proven sword. To hack through the knotted dark of the next world, yes, but to lean on as well at a stile or gate. Looking out over fens or wealds or fells or wolds. That sword, drawn from a king's sheath, fits a commoner's hand and is yours to keep. And because frost plucks at the threads of your nerves and your bones stew in the rain, bedclothes of zinc and oak are trimmed and tailored to fit. Sandbags are drafted in, for bolstering limbs and pillowing dreams. And we throw in a fistful of battlefield soil, an inch of the earth, your share of the spoils. The heavy sheet of stone is Belgian marble, buff to a high black gloss, the blanket a flag that served as an altar cloth. Darkness files past, through until morning, its head bowed. Molten bullets embroider incised words. Among drowsing poets and dozing saints, the tall white candles of vigilant sentries, presenting arms with stiff yellow flames, so nobody treads on the counterpane, but tiptoeing royal brides in satin slippers will dress and crown you with the luminous flowers. All this for a soul. Without name or rank or age or home, because you are the son we lost, and your rest is ours.
T'aimer ou ne pas t'aimer. 1972, Mahmoud Darwish, dans Rien qu'une autre année. Cantique. T'aimer ou ne pas t'aimer. Je pars, je laisse derrière moi des adresses susceptibles de se perdre. J'attends ceux qui reviennent. Ils connaissent les échéances de ma mort et ils viennent. Toi que je n'aime pas lorsque je t'aime. Les murs de Babylone sont étroits le jour, tes yeux sont larges, et ton visage se propage dans la clarté, comme si tu n'étais pas encore né. Et que nous ne nous soyons jamais séparés, comme si tu ne m'avais jamais assassiné. Et sur la crête des tempêtes, toute parole est belle, toute rencontre est adieu. T'aimer ou ne pas t'aimer, mon front m'échappe, je sens que tu n'es rien, ou que tu es tout, et que tu es susceptible d'être perdu. Te désirer ou ne pas te désirer, le murmure des rivières brûle dans mon sang. Un jour je te verrai et je m'en irai. J'ai essayé de regagner l'amitié des choses disparues. J'y ai réussi. Et j'ai essayé de me vanter de tes yeux, pouvant recevoir tous les automnes. J'y ai réussi. J'ai essayé de tracer sur ta taille un nom qui convienne à l'olivier. Un astre se reproduisit. Je te désire quand je dis ne pas te désirer. Ma face s'est écroulée. Fleuve lointain, mon corps fond. Et au marché, ils ont vendu mon sang comme de la soupe en boîte. Je te désire quand je dis te désirer. Femme qui a mis le littoral de la Méditerranée dans son flanc, les jardins d'Asie sur ses épaules et toutes les chaînes dans son cœur, te désirer ou ne pas te désirer. Le murmure des rivières, le bruissement des pins, le rugissement des océans et le plumage des rossignols brûlent dans mon sang. Un jour je te verrai et je m'en irai. Te chanter ou ne pas te chanter, je me tais, je crie. Il n'y a pas un temps pour le cri ou un temps pour le silence. Et toi, l'unique cri, toi, le silence unique. Ma peau s'est emmêlée dans ma gorge. Le vent passe en uniforme sous ma fenêtre. Sans crier garde, l'obscurité. Lorsque les soldats descendent de mes paumes, j'écrirai quelque chose. Quand les soldats descendront de mes pieds, je marcherai un peu. Et quand les soldats se détacheront de ma vue, je te verrai. Je découvrirai de nouveau ma stature. Chanter ou ne pas te chanter. Toi l'unique chant. Toi qui me chantes si je me tais. Toi le silence unique. Maintenant je me trouve desséché, tels les arbres sortant des livres. Le vent est une affaire passagère. Me battre ou ne pas me battre. Là n'est pas la question. L'important est que mon gosier soit puissant. Travailler ou ne pas travailler. Là n'est pas la question. L'important est que je puisse me reposer 8 jours dans la semaine, selon l'horaire de Palestine. Ô patrie réitérée dans les chansons et les boucheries, indique-moi la provenance de la mort, est-ce le poignard ou le mensonge? Pour ne pas oublier le toit que j'ai perdu, je dois m'asseoir tout nu. Pour ne pas oublier l'air pur de mon pays, je dois respirer la tuberculose. Pour ne pas oublier la gazelle nageant dans la blancheur, je dois me faire prisonnier des souvenirs. Pour ne pas oublier que mes montagnes sont hautes, je dois libérer la tempête qui couve sous mon front. Et pour sauvegarder la propriété de mon ciel lointain, je ne dois même pas posséder ma peau. Ô patrie réitérée dans les chansons et les boucheries, pourquoi dois-je te passer en cachette d'aéroport en aéroport, comme l'opium, l'encre blanche et l'appareil émetteur? Je veux dessiner tes contours, ô toi éparpillé dans les dossiers et les surprises. Je veux dessiner tes contours, ô toi volant au-dessus des éclats et des ailes d'oiseaux. Je veux dessiner tes contours et que le ciel ravisse ma main. Je veux dessiner tes contours, ô toile assiégée entre vent et poignard. Je veux dessiner tes contours pour trouver en toi ma stature et que je sois accusée d'abstraction, de falsification, de documents et de photos. Toile assiégée entre vent et poignard, ô patrie réitérée dans les chansons et les boucheries. Comment te transformes-tu en rêve et dérobes-tu l'étonnement afin de me laisser pétrifier? Peut-être es-tu plus belle lorsque tu te transformes en rêve. Peut-être es-tu plus belle. Il ne reste plus dans l'histoire des Arabes de noms d'emprunts que je puisse prendre pour m'introduire par tes secrètes fenêtres. Tous les pseudonymes sont confisqués dans les bureaux de mobilisation à l'air conditionné. Accepteras-tu mon nom, mon pseudonyme unique, Mahmoud Darwish? Quant à mon nom véritable, le fouet du tortionnaire et les pins du Carmel l'ont extirpé de ma chair. Ô patrie réitérée dans les boucheries et les chansons, indique-moi la provenance de la mort, est-ce le poignard ou le mensonge? Lorsque mes paroles étaient humus, j'étais l'ami des épis. Lorsque mes paroles étaient colère, j'étais l'ami des chênes. Lorsque mes paroles étaient pierre, j'étais l'ami des rivières. Lorsque mes paroles étaient révolution, j'étais l'ami des séismes. Lorsque mes paroles étaient colloquintes, j'étais l'ami de l'optimiste. Lorsque mes paroles devinrent miel, les bouches couvrirent mes lèvres. J'ai laissé mon visage sur le mouchoir brodé de ma mère dans ma mémoire. J'ai emporté les montagnes et j'ai pris le chemin de l'exil. La ville défonçait ses portails et s'accroissait sur le pont des bateaux, comme la verdure s'accroît dans les jardins qui s'éloignent. Maintenant, je m'accoude au vent. Aux statures qui ne rompent point, pourquoi est-ce que je titube alors que tu me soutiens? La distance me polie comme la mort fraîche polie le visage des amoureux. Plus je m'approche des cantiques, plus je maigris. Ô détroit grouillant de vide, quand arriverai-je? Heureux celui qui possède encore sa peau, heureux qui prononce sans faute son vrai nom, heureux qui mange une pomme sans devenir un arbre, heureux qui boit l'eau des fleuves lointains sans devenir un nuage, heureuse la pierre qui adore son esclavage et ne choisit pas la liberté du vent. Chaque fois qu'un nuage s'arrête au-dessus d'un mur, mon front doit-il voler à sa rencontre comme une fenêtre cassée? Dois-je oublier que je suis condamnée à l'amnésie et perdre mon identité? Je suis susceptible d'exploser comme l'hymen, comme mes yeux s'élargiraient à davantage de visages de prophètes. Ô mer lassée de leurs couleurs, suivez-moi, que je vous indique un autre bâton, je suis susceptible de miracles comme l'Orient. Je suis un élément qui perd son élément quand il cesse de crier. Appellerez-vous tonnerre le tonnerre et éclair l'éclair s'il advient que la voix se pétrifie et que la couleur émigre. L'ombre doit-elle procréer et me couvrir chaque fois que je quitte ma peau et la sénilité du lieu? Chaque fois que je souffle violemment sur les cendres, à la recherche d'une braise oubliée, ne dois-je trouver que mon vieux visage que j'ai laissé sur le mouchoir brodé de ma mère? Je suis susceptible de mort comme la foudre. Les arbres de mon pays ont pour métier la verdure. J'ai pour métier le souvenir, la voix perdue dans les solitudes. Vire vers le ciel et s'agenouille. Ô nuage, reviendras-tu? Je ne suis pas triste à ce point, mais celui qui ne connaît pas les arbres n'aime pas les oiseaux. Celui qui s'est habitué au mensonge ne connaît pas la surprise. Je ne suis pas triste à ce point, mais celui qui n'a pas connu la peur ignore le mensonge. Je ne suis pas renfermée à ce point, ce sont les arbres qui sont hauts. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, j'aime les oiseaux, je connais bien les arbres. Moi, je connais la surprise, car je n'ai pas connu le mensonge. Je suis rutilant comme la vérité et le poignard, voilà pourquoi je vous demande. Faites feu sur les oiseaux, pour que je puisse décrire les arbres. Arrêtez le Nil, pour que je puisse décrire le Caire. Arrêtez le Tigre ou l'Euphrate, ou bien les deux. Que je puisse décrire Bagdad, arrêtez le fleuve Barada pour que je puisse décrire Damas, bâillonnez-moi, pour que je puisse me décrire. L'ombre des palmiers, le dernier martyr, et la radio transmettent quotidiennement un reportage sur la situation de nos bien chers. Je t'aime en automne et en hiver. Haïfa n'a pas versé de larmes, et toi tu pleures. Nous n'oublions pas les détails de la ville, elle était femme et prophète. La mer, que non. La mer n'est pas rentrée de cette façon dans nos maisons. 5 fenêtres ont été submergées, mais les terrasses abondent en azur et en herbes séchées. Au pays de girofles et de revolvers, ma mère n'était pas avec moi. Je suis partie te chercher par-delà le temps et la radio. Ta forme me brisait, me laissait éparpiller. La parole était un péché, le silence exil. Les fédaïens des prisonniers espérant mourir dans ta vallée. La mort était un billet d'entrée à tes mains. Tu méprisais les pleurs. Parfois, les souvenirs sont la carte d'identité des exilés. Mais le temps s'accouple avec la mémoire pour enfanter des réfugiés. Le passé émigre et les laisse sans souvenir. Te souviens-tu de nous? Et si tu disais oui, nous rappellerons-nous tout à ton sujet? Et si nous disions oui, alors qu'il y a dans le monde des juges qui se prosternent devant les puissants, par chaque fenêtre, j'ai jeté les souvenirs tels des épluchures de pastèques, et je me suis étendue dans le crépuscule longeant la pinède. Les orages brillent dans un pays éloigné, les filles cueillent des pêches énigmatiques, tels des éclairs, les souvenirs traversent ma chair et me ramènent à toi, toi. La mort ressemble aux souvenirs. Tous deux marchent vers toi, toi, au pays qui se balance entre tous les poignards du monde et la taille du ciel. L'ombre des palmiers, le dernier martyr et la radio transmettent quotidiennement un reportage sur la situation de nos bien chers. Je t'aime en automne et en hiver. Au pays dont les noms viennent naturellement à l'esprit, les fouets de l'histoire te connaissent, les prisons de l'histoire et les exils de l'histoire. Ô toi captive à toute époque, pourquoi précises-tu aussi aventureusement ta forme? Pourquoi te proclames-tu embryon du monde? Pourquoi es-tu belle jusqu'au suicide plus que cela? Pourquoi ne te déclares-tu pas quitte envers moi, afin que je cesse de mourir? Au pays aussi cruel que le sommeil, que ne dis-tu une seule fois? Notre amour est fini, pour que j'aie la force de mourir et d'émigrer. J'envie les vents qui se détournent brusquement des cendres de mes ancêtres. J'envie les idées enfouies dans la mémoire des martyrs. J'envie ton ciel caché dans les yeux des enfants, mais je ne m'envie pas. Tu te répands sur mon corps comme la sueur, comme le désir, tu te répands dans mon corps. Tu occupes ma mémoire comme les conquérants et comme la lumière. Tu occupes mon cerveau, meurs que j'écrive ton chant funèbre, ou alors épouse-moi pour que je connaisse la trahison une seule fois.
Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit. Ein Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid, ein Bad verschmerzter Schnee und abgebrannte Kerzen. Dies Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Scherzen, die vor uns abgelegt des schwachen Leibeskleid und in das Totenbuch der großen Sterblichkeit längst eingeschrieben sind, sind uns aus Sinn und Herzen. Gleich wie ein alter Traum leicht aus der Acht hinfährt und wie ein Strom verschweißt, den keine Macht aufhält, so muss auch unser Name, Lob, Ehr und Ruhm verschwinden. Was itzt und Atem holt, muss mit der Luft entfliehen. Was nach uns kommen wird, wird uns ins Grab nachziehen. Was sag ich? Wir vergehen wie Rauch von starken Winden.
Ernst Jünger, Orage d'acier. Extrait du chapitre 17, La Grande Bataille. À 10 heures, un homme de liaison nous transmit l'ordre de nous mettre en route pour la première ligne. Un animal sauvage qu'on traîne hors de sa tanière, un marin qui voit s'abîmer sous ses pieds la planche de salut, doivent ressentir à peu près ce que nous éprouvâmes quand nous dûmes dire adieu à l'abri sûr et tiède pour sortir dans la nuit inhospitalière. L'agitation y régnait déjà. Nous courûmes à travers la tranchée Félix sous un tir vif de shrapnel et parvâmes sans perte à l'avant. Tandis que nous serpentions en bas, à travers les tranchées, l'artillerie roulait déjà sur des passerelles au-dessus de nos têtes pour aller se mettre en position. Le régiment dont nous devions constituer le bataillon de pointe avait reçu un secteur extrêmement étroit. Tous les abris furent combles en un clin d'œil. Les isolés se creusèrent des trous dans les berges de la tranchée afin de se protéger en quelque mesure du feu d'artillerie qui précéderait l'assaut. Après de longues palabres, chacun finit par trouver sa petite place. Une fois encore, le capitaine von Brixen réunit les chefs de compagnie pour la discussion. Quand nous eûmes pour la dernière fois vérifié la concordance de nos montres, nous nous serrâmes la main et nous séparâmes. Je m'assis sur un escalier d'abri, à côté de mes deux officiers pour attendre l'heure H, 5h05, où devait commencer la préparation d'artillerie. Le moral s'était un peu éclairci car la pluie avait cessé, et la nuit étoilée promettait un matin sec. Nous passâmes notre temps à fumer et à bavarder. On déjeuna à 3h et on se tendit les gourdes à la ronde. Aux premières lueurs de l'aube, l'artillerie ennemie prit une telle activité que nous craignîmes que l'anglais n'eût éventé la mèche. Quelques-unes des nombreuses piles de munitions dispersées à travers le terrain volèrent en l'air. Peu de temps avant leur hache, on diffusa le radiogramme suivant. SM, l'Empereur et Hindenburg se sont rendus sur le théâtre des opérations. Il fut salué d'applaudissements. L'aiguille avançait toujours. Nous comptâmes les dernières minutes. Enfin, elle atteignit 5h05. L'ouragan éclata. Un rideau flamboyant monta en l'air, suivi d'un rugissement soudain tel que nous n'en avions jamais entendu, un tonnerre à rendre fou, qui engloutissait dans son roulement jusqu'au coup de départ des plus grosses pièces, fit trembler le sol. Le grondement mortel des innombrables canons derrière nous était si terrible que même les pires batailles que nous avions subies nous semblaient en comparaison un jeu d'enfant. Ce que nous n'avions osé espérer se produisit, l'artillerie ennemie se tut. Elle avait été annihilée d'un seul coup gigantesque. Nous ne tînmes plus dans nos abris, debout, sur la défense. Nous contemplâmes, éberlués, le mur de feu haut comme une tour, dressé sur les tranchées anglaises, et qui se voilait de nuées ondoyantes, rouges comme du sang. Ce spectacle fut gâché par des larmoiements et une sensation de brûlure dans les muqueuses. Les vapeurs de nos obus à gaz refoulés par le vent contraire nous enveloppaient d'une violente odeur d'amandes amères. Je remarquais soucieux que beaucoup de mes hommes commençaient à tousser, à suffoquer et s'arrachaient finalement le masque du visage. Je m'efforçais donc de retenir mes premières quintes de toux et de ménager mon souffle. Les vapeurs se dissipèrent peu à peu, et une heure après, nous pûmes ôter les masques. Le jour s'était levé. Derrière nous, l'énorme vacarme ne faisait que croître, bien qu'une aggravation parût impossible. Devant nous, une muraille de fumée, de poussière et de gaz, impénétrable au regard, s'était dressée. Des inconnus couraient à travers la tranchée, nous hurlant à l'oreille des interjections joyeuses. Fantassins et artilleurs, sapeurs et téléphonistes, prussiens et bavarois, officiers et hommes de troupes, tous étaient subjugués par la violence élémentaire de cet ouragan igné et brûlaient de monter à l'assaut à 9h40. À 8h25, nos lance-mines lourds entrèrent dans la danse. Ils étaient dressés tout près, à de courts intervalles, derrière la tranchée de première ligne. Nous vîmes les énormes mines voler en arc tendu à travers l'air et retomber de l'autre côté, provoquant comme des explosions volcaniques. Leurs impacts se succédaient comme une chaîne serrée de cratères crachant des flammes. Les lois naturelles même semblaient suspendues. L'air tremblait comme au jour brûlant d'été, et ses papillotements faisaient danser de ci de là des objets immobiles. Des bandes d'ombre noires filaient à travers les nuages de fumée. Le vacarme était devenu absolu, on ne l'entendait plus. On ne notait que, confusément, comme des mitrailleuses dans notre dos lançaient par milliers leurs essaims de plomb en plein ciel. La dernière heure de la préparation devint plus dangereuse que les quatre autres, durant lesquelles nous nous étions promenés insoucieusement à découvert. L'ennemi mit en action une batterie lourde qui lança coup sur coup dans notre tranchée bondée. Pour l'éviter, je me repliais sur la gauche et rencontrais l'officier d'ordonnance, le lieutenant Heinz, qui s'enquit du baron von Zollemacher. « Il faut qu'il prenne tout de suite le commandement du bataillon. Le capitaine von Brixen vient d'être tué. » Bouleversé par cette affreuse nouvelle, je l'avais à l'arrière et m'assis dans un trou profond. Ce court bout de chemin m'avait déjà fait oublier l'événement. Je marchais en somnambule, comme perdu dans un rêve, à travers l'ouragan. Le cerveau ne se cramponnait plus à la réalité que par un chiffre, 9h40. Debout devant mon trou, Mon compagnon de Regnéville, le sous-officier Duyé-Sivken, me supplia de revenir dans la tranchée, car la moindre chute d'obus devait m'ensevelir sous des masses de terre. Une explosion lui coupa la parole, il tomba sur le sol, une jambe arrachée. Tout secours était vain. Je sautai par-dessus son corps et courus vers la droite, j'y rampai jusqu'à un terrier où deux sapeurs avaient déjà cherché asile. Dans le cercle étroit qui nous entourait, les obus lourds continuaient à faire rage. On voyait soudainement des mottes de terre noire jaillir en tourbillon d'un nuage blanc. L'explosion était engloutie par le fracas général. D'ailleurs, à mieux dire, on n'entendait plus rien du tout. Dans la petite section de tranchée, sur notre gauche, trois hommes de ma compagnie furent mis en pièces. L'un des derniers coups, un obus qui n'éclata pas, tua de plein fouet le pauvre petit Schmitt, qui était encore assis dans l'escalier de l'abri. Je me tenais devant mon terrier avec Sprenger, la montre en main, et attendais le grand moment. Les restes de la compagnie s'étaient rassemblés autour de nous. Nous réussîmes à égayer les hommes et à les distraire par des plaisanteries d'une épaisse naïveté. Le lieutenant Meyer, qui vint voir ce qui se passait au coin de la traverse, me raconta plus tard qu'il nous avait cru fous. À 9h10, les patrouilles d'officiers chargées de surveiller le déroulement de l'opération quittèrent la tranchée. Comme les deux positions étaient à plus de 800 mètres l'une de l'autre, nous devions nous rassembler avant même que la préparation d'artillerie eût pris fin et nous planquer aux aguets dans le No Man's Land de manière à pouvoir sauter à 9h40 dans la première ligne des ennemis. Sprenger et moi escaladâmes donc le parapet quelques minutes plus tard, suivis des hommes. « On va leur montrer maintenant de quoi la 7e est capable. Maintenant, je me fiche de tout. » Vengeance pour la 7e, vengeance pour le capitaine von Brixen. Nous sortîmes nos pistolets et franchîmes nos barbelés, à travers lesquels les premiers blessés se traînaient déjà vers l'arrière. Je regardais à droite et à gauche. La ligne de partage des deux peuples offrait un singulier spectacle. Dans les trous de marmite, devant la tranchée ennemie que fouissait à chaque moment la tourmente de feu, sur un front qui se prolongeait à perte de vue, massé par compagnie, les bataillons de choc attendaient. À la vue de ces masses accumulées, la percée me parut chose faite. Mais trouverions-nous en nous la force de disperser les réserves adverses, de les isoler pour les détruire? J'en avais la conviction. Le combat final, l'ultime assaut semblait venu. Ici, le destin de peuples entiers était jeté dans la balance. Il s'agissait de l'avenir du monde. J'avais, bien que par la seule intuition, conscience de la gravité de l'heure, et crois que chacun sentit à ce moment-là fondre tout ce qui en lui était personnel et que la crainte sortit de lui. L'atmosphère était étrange, brûlante d'une extrême tension. Des officiers tout debout se lançaient nerveusement des plaisanteries, nous échangeions des signaux fraternels. Je vis Olomara au milieu de son petit état-major en manteau comme un chasseur qui attend la battue, par un jour frais, une pipe demi-longue au fourneau vert dans la main. Souvent, une mine lourde tombait trop court, soulevant un geyser haut comme un clocher et arrosait de terre les hommes attentifs, sans qu'un seul courbât seulement la tête. Le tonnerre du combat était devenu si terrible que personne n'avait plus l'esprit clair. Il avait une puissance étouffante qui ne laissait plus de place dans le cours pour l'angoisse. La mort avait perdu ses épouvantes. La volonté de vivre s'était reportée sur un être plus grand que nous, et cela nous rendait tous aveugles et indifférents à notre sort personnel. 3 minutes avant l'assaut, mon ordonnance, le fidèle Finke, agita dans ma direction une gourde pleine. J'y bu une profonde gorgée. C'était comme si j'avais avalé de l'eau. Il ne manquait plus que le cigare des offensives. Le souffle éteignit par 3 fois l'allumette. La fureur montait maintenant comme un orage. Des milliers d'hommes avaient déjà dû tomber. On en avait la sensation. Les brouillards rouges étaient traversés de souffles spectraux. Le feu avait beau se poursuivre, il semblait retomber comme s'il perdait sa force. Le No Man's Land grouillait d'assaillants, qui soit isolément, soit par petits paquets, soit en masse compacte, marchaient vers le rideau embrasé. Ils ne couraient pas, ni ne se planquaient quand les immenses panaches s'élevaient au milieu d'eux. Pesamment, mais irrésistiblement, ils marchaient vers la ligne ennemie. Il semblait qu'ils eussent cessé d'être vulnérables. Le grand moment était venu. Le barrage roulant s'approchait des premières tranchées. Nous nous mîmes en marche. Parmi les masses qui s'étaient levées, on se trouvait pourtant solitaire. Les formations s'étaient mélangées. J'avais perdu les miens des yeux, ils s'étaient fondus comme une vague dans le ressac. Seul Finke et un engagé pour 1 an nommé Hacke étaient à côté de moi. Ma main droite étreignait la crosse de mon pistolet et la main gauche une badine de bambou. Je portais encore, bien que juste très chaud, ma longue capote, et comme le prescrivait le règlement, des gants. Quand nous avançâmes, une fureur guerrière s'empara de nous comme si, de très loin, se déversait en nous la force de l'assaut. Elle arrivait avec tant de vigueur qu'un sentiment de bonheur, de sérénité me saisit. L'immense volonté de destruction qui pesait sur ce champ de mort se concentrait dans les cerveaux, les plongeant dans une brume rouge. Sanglotant, balbutiant, nous nous lancions des phrases sans suite et un spectateur non prévenu aurait peut-être imaginé que nous succombions sous l'excès du bonheur. Nous traversâmes sans difficulté un lacis de barbelés en morceaux et sautâmes dans la première tranchée qui était à peine discernable. La vague d'assaut passa en dansant, comme une file de fantômes à travers sa vapeur blanche, errante, par-dessus des creux aplatis comme au rouleau. Il n'y avait plus un seul ennemi ici. Contre toute attente, une mitrailleuse se mit à cracher contre nous de la seconde ligne. Je bondis avec mes compagnons dans un trou d'obus. Une seconde après, un craquement terrible retentit, et je tombai la face contre terre. Finke m'attrapa par le col et me retourna sur le dos. « Vous êtes blessé, mon lieutenant ?» On ne trouva rien. L'engagé avait un trou dans le haut du bras et affirmait en gémissant qu'une balle lui était entrée dans le dos. Nous lui arrachâmes son uniforme pour le panser. Un sillon régulièrement tracé indiquait qu'un shrapnel s'était abattu sur le bord de l'entonnoir, à la hauteur de nos visages. C'était miracle que nous fussions encore en vie. Ceux de l'autre côté étaient encore plus forts que nous ne l'avions cru. Pendant ce temps, les autres nous avaient dépassés. Nous nous lançâmes à leur suite, abandonnant le blessé à son sort après avoir planté près de lui un bout de bois avec un haillon de charpie blanche, comme signal pour les ambulanciers qui suivaient les vagues d'assaut. En avant et à gauche de nous, le haut remblai du chemin de fer écousse-croisille que nous avions à traverser surgit de la fumée, de meurtrières et de fenêtres d'abri, ménagées dans le ballast, le feu des fusillés et des mitrailleuses crépitait aussi dru que si l'on avait secoué un sac plein de petits pois. Et ce feu était bien ajusté. Finke lui aussi avait disparu. Je suivis un chemin creux sur le talus duquel bâillaient des abris défoncés par les obus. J'avançais furieusement à travers le sol noir, labouré par les tirs, où traînaient encore en fumée les gaz asphyxiants de nos obus. J'étais tout à fait seul. C'est alors que je tombai sur le premier ennemi. Une forme en uniforme brun était accroupie à 20 pas devant moi, au milieu de la dépression martelée par le feu roulant, les mains appuyées au sol. Nous aperçûmes quand je tournais tout d'un coup. Je le vis sursauter, il tint ses yeux fixés sur moi, tandis que je m'approchais, l'arme braquée. Il devait avoir commandé dans cette section de tranchée, car je vis des décorations et des insignes de grade à la tunique par laquelle je l'empoignais. Avec un gémissement, il porta la main à sa poche pour en tirer, non pas une arme, mais une photo. Elle le montrait sur une terrasse, entourée d'une nombreuse famille. J'ai par la suite considéré comme un grand bonheur de m'être dominé et d'avoir passé mon chemin. C'est justement cet adversaire qui depuis m'a paru souvent en rêve. Cela me fit espérer que ceux qui me suivaient lui laissèrent aussi la vie.
Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal. Mais ils semblaient avoir des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre, décidément, n'était pas terminée. Notre colonel, faut dire ce qu'il est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée, et puis de long en large parmi les trajectoires, aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare. Un peu impatient seulement. Moi, d'abord, la campagne, faut que je le dise tout de suite. J'ai jamais pu la sentir. Je suis toujours trouvé triste, avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais, et ces chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre, en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'est élevé, brutal de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles au petit bruit sec qui venait de là-bas sur nous. Mais, tout en nous entourant de 1000 morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Le colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré. Pire qu'un chien. Il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup, des gens comme lui dans notre armée. Des braves. Et puis tout autant, sans doute, dans l'armée d'en face. Qui savait combien? Un, deux, plusieurs millions, peut-être en tout? Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il? Jamais, je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur Terre? Perdu, parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés, et armés jusqu'aux cheveux. Avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant, dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France, continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragé que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas, 100 000 fois plus enragé que 1 000 chiens. Et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique.
Kavana, les Ruskov. L'abominable première nuit. La fabuleuse première nuit. Saoulé de manque de sommeil, titubant, halluciné, toutes les 2 minutes mordues aux oreilles par la saloperie de sonnerie, sentant peser sur moi l'œil saillant de Meister Kube, le chef de section, qui n'arrête pas de me tournailler autour, pourquoi spécialement moi, la vieille vache, avec ses mains croisées dans le dos, sa gueule de grenouille au goitre palpitant. 20 fois, les filles me sauvent la mise. Des fournes en fournes à ma place, s'y prenant à deux, chacune cramponnée à une poignée, pour soulever le plateau de ferraille, puis doivent pédaler dur afin de rattraper ce temps perdu pour leurs propres tâches, ne pas se laisser avoir par la machine. Maria me houspille. Los, Bratha, nix schlafen, schlafen nix gut. Astarufna, Meister strafen, nix gut. Elle m'encourage. Faut, tak gut, karacho gute Arbeit. Pouf derrière sa main, avec Anna à des conneries de fille qui se paie de la tête d'un mec. Tout à coup, saute sur le machin à poser le bazar. Meister Kube est parti rôder à l'autre bout du hall. 5 rangées de monstres le séparent de nous, et la voilà qui chante à pleine gorge, sur l'air tant rebattu de Lily Marlin. Morgen nicht arbeiten, Maschine kaputt. Immer, immer schlafen, schlafen prima gut. Nach Sonntag, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Arbeiten nicht verstehen, arbeiten nicht verstehen. Et nom de Dieu. À peine a-t-elle commencé, elles sont 12, 20 à chanter de tout leur cœur. Mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Mais qu'est-ce que c'est beau? Je ne savais pas que ça pouvait exister aussi beau. C'est comme quand papa chante en chœur avec les autres ritales le dimanche au petit Cavana de la rue Sainte-Anne. Mais là, là, beau. Beau à t'arrêter de vivre. Tous ses yeux soudain allumés, ce rose sur les joues blêmes entortillées de cotonnades blanches, ses voix amples, souveraines, passionnées, éprises de perfection, entremêlant au gré de l'inspiration 4, 5, 6 arrangements spontanés qui se côtoient, s'enlacent, s'opposent, se fuient, se renforcent, s'assourdissent, et soudain éclatent faisant de cette parodie de rengaine, niaise et pleurnicharde une harmonie céleste. Maria, comme en transe, se lance dans un solo sauvage. Sa voix est pleine de choses riches et fortes qui me prennent au ventre. Les autres la soutiennent en retrait. Et puis c'est une autre qui s'y met, d'une violence de cris de bête celle-là. Et alors Maria s'efface. Et puis tout le cœur, toute la bande, en masse, triomphale, j'étouffe de bonheur. Les jambes me tremblent. Les coups de canon des presses tombent là-dessus, juste bien à point, juste fait pour ça, parfaitement à leur place. L'Abteilung 46 chante comme une cathédrale à bulbe dorée, comme le vent dans la steppe, comme... Oui, va dire ça sans tomber dans le cucu, toi. Le gars de la presse à côté de la mienne et moi, on se regarde. Rebuffet, il s'appelle. Il a les yeux pleins de larmes. Moi, ça me coule sur les joues. C'est Boris Godounov, il me dit. Je dis rien. Je sais même pas de quoi il parle. Je savais même pas que les Russes ont la réputation de chanter mieux que tout le monde. Je savais même pas que j'aimerais ça, cette façon de chanter. Tout à coup, plus rien. Les filles s'affairent, muettes, sur leur boulot. Maria est à son poste, un rien trop rose, du rire plein la figure, une boucle qui se tortille devant son nez, échappée au fichu blanc. Meister Kube arrive, mains au dos, flairant l'incongru. C'était donc ça. Plus tard, Rebuffet, qui a fait de l'allemand au lycée, me traduit la chanson. C'est ce qu'on pourrait appeler du petit nègre allemand. Demain, pas travailler, machine capote. Toujours, toujours dormir, dormir extra bon. Jusqu'après dimanche, au revoir, au revoir, au revoir. Travailler, pas comprendre. Travailler, pas comprendre. Moi, je suis en plein Michel Strogoff. L'Allemagne n'est plus ce bourbier puant la mort. Elle est le camp des Tartares. Elle est le maelstrom où s'engouffre l'Europe, l'Asie, le monde. L'Allemagne croit dévorer la steppe, et la steppe est là. À Berlin, elle commence là, la grande plaine de l'Est qui court d'un trait jusqu'au Pacifique. L'énorme tache vert clair des atlas scolaires, avec ses vents hurleurs, ses herbes couchées, ses fleuves océans. Ces hordes, ces nippes, ces poux, ces femmes qui chantent à pleine gorge. À pleine gorge. Regarde de tous tes yeux. Regarde.
Shiglaski Bayushki Bayu.
J'ai vu crouler Berlin, nuit après nuit, nuit après nuit, jour après jour quand les Américains s'y sont mis. 3000 forteresses volantes dans le grand soleil de midi, lâchant d'un seul coup leurs bombes, toutes ensemble, au commandement. Un bombardement tapis, ça s'appelle. Venez écouter un bombardement tapis, une seule fois, d'en dessous. Et puis, nous parlerons des connards qui vous expliquent qu'il faut se battre. Hélas, hélas, c'est bien triste, mais on n'a pas le choix. Alors que ces mêmes fumiers, ou leurs cousins, ont laissé tranquillement grossir la bête, l'ont écouté proclamer ses desseins, l'ont laissé violer les traités sacro-saints, l'ont regardé préparer la grande boucherie, l'y ont aidé. L'y ont poussé. Et merde, où je m'en vais? Combien avant moi ont vomi la guerre parce qu'ils l'avaient eu sur la gueule? Combien de Barbus, combien de Rilke? Et qu'est-ce que ça a changé? Les hommes sont comme ça. La guerre n'est pas la monstruosité qu'on prétend et qui ne révolte que les sensiblards dans mon genre. La guerre est le produit normal, fatal de toute réunion d'hommes. Passe ta crise, mon grand, gueule un bon coup et puis planque-toi. Sauve ta peau, sauve ceux que tu aimes. Non, n'aime pas trop, t'aurais pas les bras assez grands. Ne perds pas ton temps et tes étonnements à découvrir que les hommes sont des sacs de contradictions, qu'ils croient détester tuer, mais qu'ils adorent tuer, qu'ils ont peur, mais adorent dominer leur peur. Ils sont même très fiers de ça. Ils appellent ça le courage. T'occupe pas, vieux, ferme ta gueule. Ils te traiteront de lâche. C'est leur pire injure, leur seul vrai vice infamant. Les pauvres cons. Alors que le vrai vice, non pas infamant, la honte, connaît pas, mais dangereux, mais mortel. Et justement, on en crève. C'est la connerie. Je m'en fous d'être un lâche, et même je trouve ça plutôt utile. Mais celui qui te dit « lâche », en général, c'est pour te faire comprendre qu'il te veut du mal, et moi j'aime pas qu'on m'aime pas. Alors aussi sec mon poing dans la gueule. Ben oui. Si tu supportes pas l'horreur, petit gars, ferme les yeux. Bouge-toi les oreilles. Eux, ils la supportent, l'horreur. Ils s'habituent très bien. Ils naviguent dedans très à l'aise. Ils ont une chose qu'ils appellent conscience, qui leur dit quand l'horreur est juste et bonne. T'occupe pas. Fais semblant, ferme ta gueule. Ouais. Facile à dire. J'ai vu crouler Berlin. Jour après jour. Ils ont fait ça. Ils ont pu le faire. Je ne m'en remettrai jamais. La guerre sera toujours en moi. Toujours, tant que je vivrai. Ils ont pu faire ça. Ils l'ont fait en riant, j'en suis sûre, en chantant, en se donnant de grandes tapes dans le dos pour avoir si bien visé, en débouchant le champagne des grandes occasions. Des hommes ont pu faire ça. J'ai vu crouler Berlin. J'ai pas vu Londres. Les journaux d'ici se vantent de l'avoir écrasé. J'ai pas vu Kharkov, j'ai pas vu Stalingrad, j'ai pas vu Dunkerque. J'ai pas vu Dresde, ni Hambourg, ni Dortmund, ni Varsovie. Je ne les ai pas vus, mais je les ai toutes vues. J'ai vu Berlin.
Смотрит месяц ясный в колыбель твою.
Катюша. L'air qui règne sur toute cette guerre. Rien qu'une petite chanson bien cucu, bien convenable, sentimentalo-patriotique, sans doute fabriquée sur commande pour les exigences du temps par un poète officiel, pour le moins académicien, d'une académie d'entre leurs académies de l'URSS. Ce que Lily Marlène est au Schleu, Katyusha l'est au Ruskov. Mais Lily Marlène est poignant, désespéré, cafardeux d'un cafard envoûtant et morbide. Lily Marlène pue la guerre d'avance perdue, le désespoir désiré. Lily Marlène est subtilement décadent, vénéneux comme un opium défaitiste par son flou même, je parle surtout de la musique. La voix de Lalle Anderson, lasse, blasée, savamment niaise, voix de gentille pisseuse mal mûrie, te fout envie de chialer, doucement, sans savoir pourquoi, parce que tout passe et que rien ne vaut la peine. Comment les gars de Goebbels ne se sont-ils pas rendus compte de ça? En tout cas, succès foudroyant. Depuis 5 ans, Lily Marlène traîne ses nostalgies débilitantes de Norvège en Sahara, de Brest à Stalingrad. Je dirais pas que c'est à cause de ça que les Schleux prennent la piquette, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a dû aider. Katyusha, la Madelon des Ruskov, c'est juste le contraire. Ça traîne pas la patte. C'est pampan, optimiste, concon, bonne joue, sans problème. Et charmant. Et russe. Surtout russe. Formidablement russe. Il faut avoir entendu 50 voix sauvagement belles se saouler jusqu'aux larmes, jusqu'à la pâmoison, en faisant des variations sur Katyusha. Les Russes chantent
comme on fait l'amour, comme on devrait faire l'amour, plus loin que l'orgasme, jusqu'à l'extase. Ce moujik fredonne Katyusha, tout bas mais de toute son âme. Il se bourdonne ça pour lui tout seul, s'offre un concert, cherche des modulations, attentif, tout content quand il sait tricoter un petit truc réussi. Tire sur sa clope, de loin en loin, à l'économie, l'œil toujours perdu sur ses pinceaux rapiécés. Balance la tête, à peine, à peine. Il se saoule gentiment la gueule, comme ça, d'une chanson. Et alors, j'en meurs d'envie. J'ose pas, et puis c'est plus fort que moi, je me risque. Je me faufile dans sa fête intime. Je bourdonne avec lui, oh, bien modestement, à la tierce. Je colle bien à lui, je fais gaffe, pas me gourer, pas détonner, pauvre conte français sans oreille que je suis. Et lui, comme si de rien. Mais je sens qu'il est d'accord, qu'il m'accepte. Et c'est très chouette. J'en tremble de bonheur. Quand, par les nuits d'été, les 800 filles russes, de l'autre côté de la palissade, chantent toutes ensemble, ça arrive, toutes ensemble sous les étoiles, merde, des chants furieux et doux, grands, comme des Niagara, quand ton cœur est trop gros pour ta poitrine et que tu crois crever de trop beau, alors les Français commencent à gueuler.
C'est fini, oui, ou merde. Et nous, on bosse, hein, nous, demain. Salope de merde. Poufias. Sauvage. Mais qu'est-ce qu'elles ont dans le cul, merde. Roupie jamais, cette race-là. Vos gueules, bordel.
Et leur balance des cailloux sur le toit des baraques. Dernière trouvaille. Devant chaque piole se trouve un seau de sable ainsi qu'un baquet d'eau avec une pompe à main en cas d'incendie. Ils s'amènent derrière la palissade avec le baquet d'eau. Ils pompent par-dessus des jets pour arroser les filles. Elles ne voient pas la méchanceté. Croient à une amicale plaisanterie, se bousculent en riant pour profiter de la douche. Les Russes adorent se balancer des seaux d'eau en pleine figure l'été. Et chantent de plus belle.
Яблони и груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Voilà, c'était donc le 47e épisode de Les yeux ont des oreilles, en compagnie de Nathanaël, Maya, Lydia et Lucas. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur nos ondes. Et vous souhaitons une belle semaine. À la semaine prochaine, même endroit et même heure. Et n'oubliez pas que vos yeux restent à l'écoute, et surtout, vos oreilles.